Alors on est dans les sous-sols de la Cité des Insectes et je suis avec Patrick Blozen. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Patrick Blozen, vous êtes le directeur scientifique de la Cité, on peut dire ça comme ça?
Alors peut-être pas le directeur, mais un référent principalement, puisque avec Régine qui est la directrice et la curatrice, on se connaît maintenant peut-être depuis une quinzaine d'années, je viens régulièrement faire des interventions sur des thèmes assez variés, puisque je m'intéresse au monde des insectes au sens très large, aussi bien dans l'art, les sciences, l'art primitif, et donc je fais régulièrement des interventions ici, et voilà, souvent quand elle a besoin de conseils, d'expertise, parfois pour l'aider aussi en tant que curatrice, puisqu'elle n'est pas entomologiste de formation, comme je l'ai fait de façon autodidacte, voilà, je suis un petit peu le directeur occasionnel de scientifique d'ici, voilà.
Alors on peut peut-être décrire un peu où on est, c'est un lieu assez étonnant. On est dans les sous-sols du musée, et là, vous pouvez entendre autour de nous des sons disons, d'insectes, au moins de nature.
Voilà, d'ambiance naturelle, puisque le but de ce musée, de la Cité des Insectes, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas en ville, elle est vraiment au centre, dans un tout petit hameau, au centre de la nature. La forêt est présente dans le jardin, et les insectes, on ne les voit pas seulement dans des boîtes, on ne les entend pas seulement sur des enregistrements, on les voit directement aussi dans les jardins. Et donc le sous-sol de cette grande ferme anciennement, c'est un lieu aussi de pérégrination avec des éléments qui sont pédagogiques le plus vivant possible, le plus ludique aussi, pour que aussi bien du petit au grand, hein, de 7 à 77 ans, même si les enfants plus jeunes peuvent venir et les personnes centenaires aussi. Mais voilà, c'est tout le monde y trouve son compte et c'est ça l'intérêt aussi de la Cité des Insectes, cette capacité d'intéresser toutes les générations.
Alors aujourd'hui, on est venu spécialement pour parler avec vous de l'exposition temporaire de cette année. L'exposition est au rez-de-chaussée, donc on va remonter, on va sortir des entrailles du musée pour aller un peu plus vers la lumière et voilà. Aller voir cette exposition avec vous.
Pas de problème, alors, nous allons monter. Remonter vers la lumière.
Voilà, donc on arrive dans la salle d'exposition, qui est une sorte de cabinet de curiosité, on peut dire. Quand on entre, on tombe déjà. Alors c'est pas que des insectes, hein, il y a aussi des animaux un peu plus gros.
Voilà, le cabinet de curiosité, l'exposition c'est généralement dans le début du parcours, et on commence par le cabinet de curiosité, puisque les cabinets de curiosité sont apparus à peu près dans le monde autour du 17e, 18e siècle, parfois 16e pour certains, et c'était les grands, les riches, les rois, les princes, les nobles, qui payaient ou qui parfois y avaient voyagé à bout du monde, et montrer sa puissance et sa richesse, c'était aussi de financer des expéditions à travers le monde et de ramener aussi bien des plantes, des crânes, des animaux empaillés, des graines, des curiosités, c'est vraiment ça, des curiosités du monde. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet ni la télé. Et bien, quand on venait voir un prince ou un noble, il venait rentrer dans ses pièces et il montrait un petit peu ce monde qui échappait à tout le monde à l'époque. Hein. C'était un monde de découverte. Et donc, ils montraient d'une certaine manière à la fois leur connaissance, mais leur puissance de pouvoir montrer aux autres ce qu'il y a à travers le monde. Et le cabinet de curiosité, au départ, c'est vraiment ça. C'est un cabinet où on étonne, où on impressionne et on est dans l'imaginaire. Parce que quand d'un seul coup, on entendait parler qu'il y avait des lions et autres, là, il ramène éventuellement une peau de lion, une corne de gazelle, des pierres, des insectes. Donc on est dans un monde qui nourrissait la curiosité et c'est vraiment le cabinet de curiosité. Et c'est le début de l'exposition et dans ce thème-là. Et on va commencer ma petite exposition sur les boîtes de naturalistes qui sont aussi dans l'esprit du cabinet de curiosité.
Voilà, exactement. Donc là, on arrive au fond de la pièce. On a passé les entassements, on va dire, un peu, même si c'est assez rangé d'objets, d'animaux empaillés, de pierres. Et on arrive au fond de la pièce. Et là, on est vraiment dans un autre univers. un hiver assez rangé, assez lumineux.
Alors, les boîtes d'herboristes et de naturalistes, c'était des boîtes en métal, généralement construites en fer blanc, qui sont apparues au début du XVIIIe siècle. Les premières boîtes, c'était l'époque où on découvrait et on voulait commencer à nommer un peu les choses. Donc, les premières boîtes en métal sont apparues en Angleterre, autour de 1705. Et elles ont commencé à être fabriquées un peu plus en série à partir de 1815, en Allemagne principalement et en Angleterre. Et ces boîtes, progressivement, ont équipé l'herboriste qui allait ramasser les plantes, et puis le naturaliste au sens large, donc il allait ramasser aussi bien des graines, des plantes, mais aussi des insectes. Et progressivement, ces boîtes sont à la fois diversifiées avec des petits espaces sur les côtés, avec du liège pour pouvoir piquer les insectes qu'on ramassait. Et ces boîtes sont devenues un objet emblématique de l'herboriste et après du naturaliste. Mais le côté naturaliste se faisait aussi en famille. Et donc ces boîtes sont devenues la grande boîte pour monsieur, une boîte plus petite pour madame et des boîtes plus petites pour les enfants. Et avec l'avènement de la chromolithographie, ces boîtes ont fini par être ornées de dessins, de couleurs, de peintures, de choses très, très ludiques. Et c'est devenu des objets qui ont maintenant, pour beaucoup, 150 ans, 100 ans, qui sont après à la fois des œuvres d'art populaire, mais presque des œuvres d'art par elles-mêmes, avec une immense diversité.
Alors peut-être qu'on peut décrire physiquement un peu ces boîtes, déjà dans la forme, pour ceux qui ne les voient pas.
Voilà. Ce sont des boîtes qui sont un petit peu comme des, comment on pourrait dire, des petits sacs à main, mais allongés et ronds, en métal, en fer blanc. Et généralement, ce sont les couvercles qui étaient ornés de dessins, parfois en relief. Alors, il y a souvent des scènes champêtres, il y a des scènes où on voit les enfants chasser les papillons, on voit des scènes de chasse, on voit des papillons, on voit des gens chevauchant, on voit aussi des paysages de différents pays. Et en fin de compte, ces boîtes sont très rares, pour la bonne raison qu'elles ont beaucoup d'âge et qu'elles étaient usitées. Hein. Ce n'étaient pas des boîtes qu'on rangeait dans un placard, c'est des boîtes qui faisaient du terrain, donc elles ont leur patine. Mais c'est les vestiges d'une époque où la curiosité, c'était pas, on n'apprenait pas le monde en regardant la télé ou Internet, en le vivant par l'histoire des autres, mais on vivait des expériences soi-même. Donc on partait sur le terrain, observer la nature, les plantes, les insectes, on le vivait au quotidien et on ramenait des échantillons chez soi ou on les mettait parfois dans les petites boîtes pour les relâcher après. Il y a beaucoup de figurations. On voit des enfants qui avaient des boîtes plus petites, mais dans le même style que le papa et maman, et qui ramassaient des hannetons, par exemple, qu'ils mettaient dans leur boîte, et puis après, ils avaient le plaisir de les refaire envoler devant eux plus tard. Donc, c'est vraiment assez étonnant la diversité de représentations, d'illustrations. Et c'est des vestiges qui ont le coup d'œil. Et ma collection fait partie, a priori, des plus grandes collections au monde, puisque une spécialiste, Régine Fabry, belge, a fait un livre très récemment. Elle a eu connaissance de ma collection il y a 2-3 ans. Et elle a considéré que c'était une des 2-3 plus grandes collections. Et c'est vrai que j'en ai peut-être maintenant à peu près 80 qui viennent de différents pays, différentes époques, et qui sont du patrimoine qu'il est intéressant de venir découvrir à la Cité des Insectes. Cette exposition a pour nom « L'histoire est dans la boîte » parce que, en fin de compte, ces boîtes sont aussi un reflet de l'histoire de l'entomologie, d'une époque où on faisait de l'entomologie de terrain, où on récoltait, et aussi une histoire parce que ces boîtes ont été d'abord des boîtes d'herboristes et qu'on appelait des vasculums, puisque c'est le nom anglais qui a primé, parce que c'est d'abord en Angleterre qu'on les a fabriquées, puis après en Allemagne. Donc c'était à la fois des vasculums, des boîtes d'herboristes, des boîtes à herboriser, et c'est devenu aussi des boîtes de naturalistes, puisqu'elles avaient un double usage, ramasser des plantes, ramasser des insectes, ramasser différents échantillons naturels.
Alors on peut dire aussi qu'elles sont en métal, en fer blanc en général, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Elles sont en fer blanc. Elles ont été fabriquées parfois en série, parfois des commandes individuelles de personnes. Alors au tout début, quand c'était herboriste, c'était vraiment sur commande. Et des grands noms de la science les citent ou en parlent de façon bien précise, comme Linné, comme Buffon, des gens comme Jean-Jacques Rousseau, qui était aussi amoureux de la nature et de la botanique, en parle aussi de l'usage de ces vasculums, de ces boîtes d'herboristes.
Alors, le fait qu'elles soient en métal, c'était aussi lié pour ne pas détériorer les échantillons, c'est ça ?
Voilà, c'était à la fois costaud, ça prenait pas la température trop vite, et puis ça restait un petit peu au frais, et puis il faut pas oublier, on est sur le terrain, donc il faut que... Elle se promène aussi bien en montagne, dans les champs, par des enfants. Il y a eu des boîtes à une époque qui étaient faites en bois, mais bien évidemment, elles étaient moins pratiques. Et donc, elles étaient tenues un petit peu en bandoulière. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que comme il a été fabriqué aussi bien pour les adultes, pour les botanistes professionnels, pour les familles, on allait découvrir la nature en famille. Ben, ces boîtes étaient déclinées de toutes sortes de tailles, de toutes sortes de trucs. Et il y a même une époque où on a fabriqué des boîtes pour les poupées. C'est-à-dire que dans l'exposition, il y a une boîte exceptionnelle. C'était une boîte d'herboriste, mais qui était pour décorer l'équipement de la poupée. C'est-à-dire que même le jouet finissait par avoir cette boîte de naturaliste accrochée sur le côté. C'était vraiment un objet emblématique de faire du terrain pour découvrir la nature, les plantes, les insectes, l'esprit de curiosité. C'est un témoin de l'esprit de curiosité. C'est pour ça que se retrouver dans le cabinet de curiosité pour lancer l'exposition, ça a un vrai sens. Parce que c'était une époque où on nourrissait la curiosité en allant dans la nature.
Alors là, on peut voir des gravures qui représentent un peu l'usage de ces boîtes. On voit, alors là, c'est effectivement, ils ont présenté un insecte qui porte lui-même une boîte, mais on peut imaginer, voilà, il y a une petite fille avec sa boîte en train de parcourir la nature avec son filet à papillons. Moi, je me faisais un peu la réflexion que peut-être que c'était aussi des boîtes qui ont... À l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo. Aujourd'hui, on imagine que les enfants ou voire les naturalistes partiraient avec un appareil photo en bandoulière. Et à l'époque, il n'y avait pas cette possibilité. Donc, c'était une manière de fixer et de ramener quelque chose de ce qu'on avait observé.
Parce que si on fait des photos, c'est pour se les garder pour soi, mais pour les montrer aux autres. Et le fait d'à une époque où on va récolter... C'est pour si, quand on revient, on va observer, on va regarder éventuellement dans les livres pour essayer de connaître les noms des choses, alors que maintenant, ben, on met sa photo, on regarde sur Internet, on note des trucs et on finit par trouver la détermination par Internet. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc il fallait éventuellement chercher dans les livres, voire décrire des bêtes, décrire des plantes. Et donc c'était maintenant, c'est vrai que c'est le transfert, c'est devenu l'appareil photo. À l'époque, c'était la boîte qui permettait de montrer, de regarder, d'étudier après et de montrer les bêtes qu'on avait ramassées ou les plantes. Et c'était vraiment un usage. Il faut imaginer aussi qu'à l'époque, chaque pas qu'on faisait dans la nature... On faisait envoler des papillons, des insectes, des sauterelles dans les prairies. Et quand on ramassait des insectes, on était juste un oiseau de plus dans la prairie, un lézard de plus. Maintenant, il y a tellement une disparition du nombre d'insectes dans la nature pour à la fois l'humain qui envahit partout, la pollution, la circulation automobile, la lumière qui attire les insectes et qui vont aussi bien dans les phares dans la circulation que dans les villes, se mourir et se brûler les ailes sur les lampes, que voilà, maintenant, l'objet, c'est de se promener dans la nature, éventuellement, un filet à papillon pour l'attraper, pour le regarder ou l'insecte, le photographier et le relâcher. Et les boîtes, bah, c'est une autre époque, mais c'est une époque qu'il faut venir découvrir par ces beautés d'art populaire que sont ces boîtes de vasculum de naturalistes.
On parle d'art populaire, c'est quelque chose qui me frappe aussi. Peut-être que ça parle aussi du naturalisme tel qu'il a pu exister, c'est-à-dire que c'était des objets à grand tirage, disons, qui ont été beaucoup fabriqués et beaucoup utilisés. Le naturalisme au XIXe siècle, c'était quelque chose. Il y avait des clubs, c'était vraiment quelque chose de très répandu et dans la population en général. C'était pas seulement une affaire de spécialistes. Même à l'origine, c'était même pas du tout une affaire de spécialistes.
Non, non, non. Et à vrai dire, alors c'est vrai que peut-être que les familles plus aisées, parce que ces boîtes avaient certainement un coût assez important, donc les nobles, mais aussi les gens un petit peu curieux, c'était vraiment des choses en famille. Et c'était pas que pour les entomologistes. D'ailleurs, un entomologiste, ça n'intéresserait pas d'avoir une trop petite boîte ou une moyenne boîte parce qu'ils ne mettraient pas grand-chose dedans. Donc, ce qui montre que c'était vraiment à l'usage. Et d'ailleurs, les représentations qui accompagnent mon exposition, qui sont des agrandissements, parce qu'on n'a pas mis les originaux, parce que ça, la lumière les abîme, pour certains, j'en ai mis quand même dans une des vitrines, on voit donc des chromos, des cartes postales, où on voit des enfants avec ces boîtes-là, ça les remet dans le contexte. Il y a parfois des gravures, parfois il y a des photos qui les représentent avec les boîtes de naturalistes. Ça permet vraiment de resituer. Et ces boîtes sont tellement belles. Franchement, moi j'étais amoureux d'elles. Dès que j'ai vu la première boîte, je me suis dit waouh, je ne savais pas. Et j'ai commencé à les rechercher. Et là, à vrai dire, je pense qu'il y a 40 ans de recherche pour arriver à peu près à 80 boîtes en collection. C'est du patrimoine à venir découvrir la Cité des Insectes.
Alors justement, quand est-ce qu'on peut venir à la Cité des Insectes? C'est de quand à quand cette exposition?
Alors la Cité des Insectes a ouvert au 1er avril et fermera après les vacances de la Toussaint. Et donc cette exposition, elle est un peu permanente. Donc je ne veux pas dire de bêtises, ça doit être ouvert à tout public le mercredi, le samedi, dimanche et aux scolaires le reste de la semaine. Mais dès qu'il y a des vacances scolaires ou des ponts, c'est ouvert chaque jour, 24 heures sur 24.
Patrick Bleuzen, merci à vous.
Merci beaucoup.
Donc on vous invite à venir voir cette exposition en particulier, et puis la Cité des Insectes en général, parce qu'il y a des collections vraiment exceptionnelles et une très belle mise en muséographie, si on peut dire. Voilà, ainsi qu'un beau jardin à visiter, plein d'insectes, plein de plantes. Et voilà. Donc n'hésitez pas à venir avec vos enfants, vos grands-parents, vos parents. Tout seul.
Les papillons.